France Inter.
Et bonjour à tous. Les ambulances ou les taxis qui transportent des malades sont a priori des véhicules dans lesquels on devrait se sentir en sécurité. Or, selon une enquête réalisée avec nos confrères de Disclose, ce sont au moins 152 personnes vulnérables qui ont été agressées sexuellement dans ce type de transport depuis 2005. Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour.
Avec vous, on va voir que la réglementation et la faiblesse des contrôles expliquent en partie cette situation. Et puis nous recevrons Hugo Coignard du site d'investigation Médiacité. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, on verra que l'usine Arkema de Pierre-Bénite près de Lyon a laissé un environnement dégradé par des polluants éternels et on verra qu'aux États-Unis, sur des sites comparables, l'entreprise n'a quasiment rien fait pour dépolluer ces sites.
Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
Vraiment, je voulais mettre fin à ma vie. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide et pour moi, je me suis toujours dit que c'était de ma faute. J'aurais vraiment préféré mourir. Je sais pas si un jour je pourrais m'en remettre.
Cette voix, c'est celle d'une jeune femme handicapée, qu'on appellera Lilia. Elle a été agressée sexuellement par un chauffeur de taxi qui avait déjà été d'ailleurs condamné pour des faits similaires. Or, il se trouve que Lilia est loin d'être un cas isolé parce qu'avec nos confrères de Disclose, je vous le disais, nous avons découvert que depuis 2005, ce sont en fait au moins 152 personnes vulnérables qui ont été agressées soit par des chauffeurs de taxi conventionnés ou même par des ambulanciers, Laetitia Chérel.
Oui, alors là, on parle de personnes malades ou handicapées qui ont recours à des taxis remboursés par la Sécurité sociale ou à des ambulances pour aller, par exemple, se faire soigner ou se rendre dans un établissement spécialisé. La majorité des victimes que nous avons identifiées sont des femmes et des mineurs.
Et comment on a fait pour les identifier, tous ces cas?
Eh bien, ma consoeur Stéphanie Place, journaliste à Disclose, a passé un an à documenter minutieusement ses affaires.
D'abord, j'ai commencé à recenser tous les articles de presse, dans la presse nationale, dans la presse quotidienne régionale, sur les violences sexuelles qui étaient commises par des ambulanciers entre 2005 et aujourd'hui. Je me suis très vite rendu compte que les violences sexuelles ne se limitaient pas aux ambulanciers. J'ai décidé du coup d'élargir la recherche aux autres transports. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est retrouvé avec une quantité importante d'affaires, 95 au total. À partir de ces affaires-là, il a fallu bien sûr recouper les infos de ces articles de presse avec des documents judiciaires. Et ensuite, on a complété avec des témoignages de victimes, bien entendu, des interviews d'avocats, des dirigeants de sociétés de transport concernés. Et dans un tableau Excel, on a regroupé toutes ces affaires qui recensent tous les auteurs de violences sexuelles dans les transports.
Et donc, c'est comme ça qu'on arrive au chiffre de 152, ce qui est évidemment énorme. Hein. Mais est-ce que pour autant, Laetitia, sur 20 ans, c'est révélateur de quelque chose de systémique?
Alors, c'est effectivement une question qu'on peut se poser. Écoutez ce qu'en pense Ariane Lavrieux, qui a supervisé ce travail chez Disclose.
En fait, cette enquête montre la partie émergée de l'iceberg. Nous, on a pris uniquement les personnes condamnées dont la presse avait parlé. Donc, c'est déjà un tout petit pourcentage de la réalité parce qu'on sait qu'une victime de viol seulement sur 10 va porter plainte et encore moins d'une plainte sur 10 va aboutir à une condamnation. Et donc, on peut faire l'hypothèse qu'il y a beaucoup plus de victimes que 152 victimes qu'on a comptabilisées en près de 20 ans.
Bien, alors essayons maintenant de comprendre comment on en est arrivé là, à ce chiffre, Laetitia. Qu'est-ce qui explique en fait cette situation?
Alors, ça s'explique par des failles dans la réglementation et on peut déjà en citer une. Par exemple, lorsqu'un chauffeur de taxi a été condamné pour une agression sexuelle, il ne peut plus exercer son métier. Mais il peut y avoir un certain laps de temps entre la condamnation et le moment où on va lui retirer sa carte professionnelle et c'est pendant ce laps de temps que nous avons identifié des récidives.
Par exemple?
Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour un chauffeur de taxi qui avait été condamné en février 2018 en Occitanie pour une agression sexuelle. La préfecture a mis 10 mois pour lui retirer sa carte professionnelle et entre-temps, il a pu continuer, en toute légalité, à transporter des personnes vulnérables.
Et c'est pendant ce temps-là qu'il a agressé Lilia.
Oui, c'est cette jeune femme qu'on a entendue tout au début de l'émission. Elle souffre d'une maladie neurologique qui altère son discernement. Elle est donc sous curatelle et pour aller au lycée, elle est à l'époque des faits prise en charge par ce chauffeur conventionné par la Sécurité sociale. Je précise que son témoignage peut heurter la sensibilité des jeunes auditeurs. Elle nous a raconté comment le conducteur l'a invité chez lui.
Il m'a dit « je viendrai te chercher chez toi ». Et il m'a dit « surtout ne dis pas à ta mère où tu vas et tout ». Donc j'ai dû mentir à ma mère en disant que j'allais chez une amie faire mes devoirs. Elle m'a cru et je crois que je regretterai à vie ce mensonge. Donc je suis allée chez lui et quand je suis rentrée, il a fermé la porte à clé, donc je ne pouvais pas sortir. Et après, il a sorti sa table de massage et il m'a clairement dit « maintenant tu peux te déshabiller ». Et moi, c'est comme si j'étais hypnotisée par son regard, donc... J'étais plus moi, donc j'enlevais juste mon pantalon, mon t-shirt, car je pensais vraiment que c'était juste un massage du dos. Puis après, il a commencé à enlever ma culotte et à me toucher. J'ai essayé de me relever plusieurs fois et il m'a toujours repoussé pour que je reste allongée, vu que c'est une personne assez baraquée et moi je suis un peu... pas comme une crevette, mais je suis plus fine. Donc, j'avais pas assez de force pour pouvoir le pousser plus fort. Et au bout d'un moment, il m'a vu pleurer, il m'a vu en crise d'angoisse. Il m'a dit « Tu veux que j'arrête ?» J'ai dit « Oui ».
Ouais, c'est assez terrible, effectivement, d'entendre ça.
Oui, et je précise, Jacques, qu'elle nous a parlé avec l'accord de la juge des tutelles.
Ouais. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, le soir même, Lilia, très choquée, raconte à sa mère ce qui lui est arrivé. Le lendemain, elles vont porter plainte à la gendarmerie. 4 ans plus tard, le chauffeur de taxi sera condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et il portera un bracelet électronique. Mais pour Lilia, le cauchemar continue.
Pendant presque 2 mois, j'ai été en psychiatrie pour dépression. Après, je suis restée 2 ans dans un centre pour me réadapter parce que j'avais plus de vie, j'étais qu'une pauvre merde, désolée pour le terme. Donc oui, je suis restée 2 ans prendre des cachets pour la dépression. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je prenne sur moi et que j'avance. Mais des fois, je le vois encore, cette personne, et il me regarde avec un sourire, avec ses bras levés en disant, j'ai gagné, j'ai pas fait de prison. Et toi, t'es triste. Et je me dis... j'aurais vraiment préféré mourir. Au moins, je ne penserai plus à ça et je ne sais pas si un jour je pourrais m'en remettre.
Ouais, voilà donc pour les propos de Lilia. Et le chauffeur de taxi, lui, Laetitia, il fait quoi aujourd'hui ?
Eh bien, il dirige sa propre société de taxi et de bus. Il n'a plus le droit de conduire de taxi, mais il le ferait toujours. Plusieurs personnes m'ont dit l'avoir vu au volant de son véhicule avec des passagers.
Mais il n'y a pas de contrôle ? On ne vérifie pas que l'interdiction est bien appliquée ?
Alors, les gendarmes de la région que nous avons interrogés disent être débordés par les affaires de violences intrafamiliales et de stupéfiants. Il y a 1 an, le procureur a bien ouvert une enquête après des dénonciations, mais le chauffeur a nié les faits et l'affaire a été classée.
Donc, on va s'arrêter là pour ce qui le concerne. Maintenant, vous avez identifié d'autres cas où des chauffeurs condamnés pour des agressions sexuelles aussi continuent de conduire.
Oui, notamment ce chauffeur de taxi de 77 ans qui transporte des malades et des mineurs également dans le sud de la France. Lui a été condamné en 2019 à 18 mois de prison ferme ainsi qu'à une interdiction d'exercer à vie. Il avait agressé 4 femmes, dont 2 handicapées mentales et une mineure de 15 ans, alors qu'il les transportait régulièrement dans une maison spécialisée.
Et malgré ça, il est toujours en activité ?
Oui, et pour le vérifier, j'ai appelé chez lui, comme si j'étais une cliente, pour commander une course. C'est son épouse qui m'a répondu. J'ai alors enregistré notre conversation et modifié sa voix.
Allô ?
Oui, bonjour, vous êtes bien taxi, monsieur ?
Oui, madame.
D'accord, je vais venir fin janvier là. Je voulais savoir si je pouvais utiliser votre taxi pour me déplacer. C'est possible qu'ils viennent ?
Oui, Pour le moment, il n'y a rien d'autre, donc ce serait lui.
Ok. Il m'appelle avant d'arriver, même si jamais...
Voilà, on vous appelle et vous sortez quand vous voyez le taxi.
Ouais, donc effectivement, il conduit bien.
Oui, mais pour en être sûr, je me suis rendue sur place. Et c'est effectivement lui qui est venu me chercher. Et je précise que nous avons aussi modifié sa voix.
Bonjour monsieur, monsieur...
Oui.
Enchanté. Oui. Je m'appelle madame Chérel.
Chérel.
Oui.
Voilà. Vous ne savez pas votre nom, sûrement.
En fait, je suis journaliste. Je travaille à France Inter.
Hein?
Donc j'ai pas dit à votre femme que j'étais...
Oui.
Je fais un reportage sur comment les chauffeurs de taxi, de bus, sont contrôlés quand ils ont été condamnés pour des agressions sexuelles.
Hein?
Alors, je crois que c'est votre cas.
Il n'y a pas d'agression sexuelle, il n'y a rien.
C'est à tout chemin.
Mais vous avez été condamné.
Cheveux, épaules.
Non, mais ne me touchez pas.
Non, mais je vous montre. Cheveux, épaules, c'est tout. Je ne suis pas condamné pour le moment. J'ai rien. J'ai en cassation, là.
Je suis, il dit, hein, je suis en cassation, c'est ça?
Oui,
donc,
oui.
Donc il s'est pourvu en cassation.
Oui, c'est ça. Et du coup, il a le droit de conduire, car tous ses recours sont suspensifs. Et ça fait donc 5 ans qu'il transporte en toute légalité des mineurs et des personnes vulnérables. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de s'arrêter.
Je vais pas continuer tant que je pourrai, parce qu'on a énormément dans le canton de gens malades qui ne trouvent personne pour les porter. Ces malades ont des difficultés à rentrer dans les véhicules, il faut les aider à s'asseoir, à mettre la ceinture. Et alors, bien sûr, on peut toucher un bras, on peut toucher une jambe. C'est pas une agression sexuelle, c'est du tout le travail qui est comme ça.
Vous continuez aussi, parce que vous êtes accusé d'agression sexuelle sur des mineurs, vous continuez à en transporter des mineurs
Bien sûr. Personne n'a cru à cette plainte. Personne. Vous faites une enquête dans un canton, il y a 90% de gens qui disent que des conneries.
Ouais, c'est pas tout à fait ce que la justice a dit jusqu'ici en tout cas. Maintenant, en attendant donc, Laetitia, il peut effectivement continuer de conduire.
Oui, mais plusieurs juristes m'ont expliqué qu'il aurait été possible de procéder différemment. C'est ce que m'a dit notamment cette magistrate dont nous avons fait lire les propos.
Si on ne veut plus qu'un taxi exerce, on peut prononcer ce qu'on appelle une exécution provisoire dès la première condamnation. C'est-à-dire qu'on applique l'interdiction d'exercer immédiatement, sans attendre le résultat de son appel ou de son pourvoi en cassation. Quand il y a des situations de danger, les juges ont plutôt tendance à prendre cette décision.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors on a vu que des chauffeurs de taxi pouvaient avoir été condamnés pour agression sexuelle et continuer de transporter des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, Laetitia Chérel, mais c'est aussi le cas de certains ambulanciers.
Oui, et là, en l'espèce, dans cette profession, on ne parle plus de faille, mais de vide juridique, car les employeurs n'ont pas l'obligation de vérifier le casier judiciaire de ceux qu'ils veulent employer, et le Code de santé publique considère même qu'un ambulancier peut conduire malgré une condamnation.
Et une femme de 72 ans l'a appris à ses dépens.
Oui, ce jour-là, en 2016, elle quitte l'hôpital en ambulance après une visite de contrôle suite à une opération. Elle est allongée et sanglée à l'arrière du véhicule, vêtue d'une simple blouse. Un ambulancier se trouve à ses côtés, tandis qu'un autre conduit. La suite, elle a accepté de la raconter sous le sceau de l'anonymat. Nous avons donc fait lire ses propos, et là encore assez difficile à entendre, je vous préviens. Voici donc ce qui s'est passé avec l'ambulancier.
Il a commencé dès le début du trajet. Je lui ai dit que j'avais envie de faire pipi. Et il a dit qu'il connaissait une technique de massage du clitoris pour arrêter d'avoir envie d'aller aux toilettes. J'osais pas crier. Je pouvais pas bouger parce que c'était douloureux sans les calmants. J'avais peur aussi de provoquer un accident. Je parlais quand même fort. Vous allez arrêter de me mettre les mains. J'ai bien compris que je n'arriverais à rien en lui disant d'arrêter. Une fois arrivé, il a disparu.
Il a disparu, c'est-à-dire ?
Eh bien, il est reparti comme si de rien n'était. Mais la victime a porté plainte et l'ambulancier a été condamné à 1 an de prison ferme avec interdiction à vie d'exercer son métier.
Oui, ce qu'on a découvert pendant la procédure, c'est que ce n'était pas la première fois qu'il agressait une femme.
Effectivement, il avait déjà été condamné en 2013 pour des faits similaires sur une jeune femme handicapée mentale.
Mais le patron de la société d'ambulance qu'il emploie, lui, ne le savait pas, ça ?
Alors, j'ai tenté de le joindre, mais sans succès. Je ne peux donc pas répondre à cette question, Jacques. Mmh. Mais je le répète, il n'y a pas d'obligation de vérifier le casier judiciaire d'un ambulancier avant de le recruter. Mais ça, chez certains, ça ne passe plus aujourd'hui. C'est ce que m'a confié cet ambulancier qui a 30 ans d'expérience et dont nous avons aussi fait lire les propos.
Entre collègues, on trouve que ça n'est pas normal qu'on ne nous demande pas notre casier judiciaire et que n'importe qui puisse devenir ambulancier. On se retrouve avec des personnes vulnérables, on va chercher des gens à domicile, on a accès à des dossiers médicaux, on rentre dans des établissements de manière moins contrôlée. C'est du laxisme ou un vide juridique. Et on est nombreux à vouloir que ça change. Parce que même si ça n'est pas fréquent, ce type d'agression sexuelle, c'est quand même récurrent. Et ça porte préjudice à notre profession.
Ouais, sauf que tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Non, à commencer par les représentants de la profession. Pour Thierry Schifano, par exemple, le président de la Fédération nationale de la mobilité sanitaire, eh bien, ces cas d'agression seraient des dérives, certes graves, mais minoritaires. Et lui estime que les ambulanciers sont suffisamment formés pour ne pas être contrôlés.
Je suis complètement opposé à ces discours-là parce que là, on voit bien qu'il y a un manque de connaissance des personnes qui ont parlé. On a donné les armes aux ambulanciers pour éviter de se retrouver en position difficile. Nos salariés, lors de leur formation du diplôme d'état d'ambulancier, ils ont à peu près 75 heures de formation sur l'intégralité des patients que nous transportons. Donc cela, pour nous, c'est le garant que le salarié est formé pour arriver à le faire.
Ouais, donc pour lui, pas besoin de connaître le casier judiciaire des personnels qu'on embauche. Hein. Et sinon, l'ambulancier agresseur dont on parlait tout à l'heure, Laetitia, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ?
Alors nous l'avons retrouvé, il travaille en Savoie, toujours dans le transport, mais il s'est reconverti comme chauffeur de bus scolaire.
Parce qu'on peut conduire des bus pour enfants, même si on a été condamné pour agression sexuelle ?
Oui, si la justice n'a pas prononcé d'interdiction. Maintenant, les employeurs peuvent quand même, s'ils le souhaitent, vérifier les antécédents des chauffeurs de car avant de les embaucher, en s'adressant au ministère de l'Intérieur, comme me l'a expliqué Jean-Sébastien Barraud, le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs.
On a la faculté de nous adresser au ministère de l'Intérieur, au Service national des enquêtes administratives, qui va nous dire « oui, cette personne-là est à même d'exercer le métier » ou « non, elle n'est pas à même de le faire ». Il peut s'agir d'une condamnation pour agression sur personne vulnérable, mais également d'un risque terroriste ou autre problème avec la personne.
Donc il y a bien un moyen de connaître les antécédents des chauffeurs de car.
Oui, sauf que ce dispositif a lui aussi ses limites. Entre le moment où on fait une demande et celui où on a la réponse, il se passe encore beaucoup de temps.
C'est quelques mois, 2-3 mois. C'est évidemment bien souvent trop long. Et puis, peut-être le plus gros trou dans la raquette, c'est qu'en réalité, on peut avoir recours à ce service-là lors de l'embauche d'un conducteur. Mais ensuite, une fois que le conducteur est embauché, nous ne pouvons y avoir recours que si nous avons un doute extrêmement sérieux que l'on se doit de motiver. Donc il faut déjà qu'on ait été alerté pour qu'on puisse interroger à nouveau ce service national d'enquête administrative.
Inter, secret d'info.
Alors on va essayer d'avancer, Laetitia Chérel. Ce qui est aussi apparu au cours de votre enquête, c'est qu'il y a un problème de contrôle, c'est-à-dire que certains chauffeurs qui n'ont pas le droit d'entrer en contact avec des mineurs, apparemment le feraient quand même.
C'est effectivement ce que j'ai constaté dans le nord de la France. Un homme de 54 ans qui conduisait des enfants en difficulté a été condamné en 2017 à 6 mois de prison ferme pour avoir agressé sexuellement 8 mineurs. Il a eu interdiction à vie de faire un métier impliquant un contact habituel avec des mineurs et il s'est donc reconverti et a créé son entreprise d'aide à la personne.
Et donc ?
Eh bien, pour savoir s'il transportait encore des mineurs, je l'ai testé, comme je pourrais dire. Mmh. Je lui ai demandé s'il accepterait d'accompagner mon fils de 15 ans une fois par semaine pour aller chez le dentiste. Il a accepté. Je me suis donc rendue sur place avec un micro caché. Pour protéger son anonymat, nous avons modifié sa voix.
Voilà, monsieur arrive dans sa voiture. Monsieur,
bonjour.
Oui, enchanté. Vous pouvez éteindre 2 secondes.
Oui.
Je suis une journaliste de France Inter.
Je fais une enquête sur les contrôles des chauffeurs de bus, de taxi et d'ambulance.
Bah, vous connaissez mon histoire, mon ami.
Bah, vous pouvez me la redire, hein, parce que...
Non, j'ai plus envie de parler.
Vous confirmez que vous avez été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour des agressions sexuelles sur 8 mineurs.
Oui, c'est ce qu'il dit.
C'est ce que dit le jugement.
Ouais, mais bon, j'étais traîné, j'étais sali.
Vous êtes interdit de travailler ou d'avoir une activité bénévole à vie avec des mineurs.
C'est ça.
Ouais, sauf qu'il a quand même accepté de transporter votre soi-disant fils.
Oui, il était d'accord et il m'a même envoyé un devis. Je l'ai donc aussi interrogé là-dessus.
Le fait que moi, je vous propose d'accompagner régulièrement mon fils.
Ouais, mais bon, j'étais interdit pendant 2 ans de rentrer en contact avec des enfants.
C'était à vie.
Non, c'est sur 2 ans.
C'était à vie pour l'interdiction.
Oui, je ferai attention.
Pour une prochaine fois, ça veut dire que quoi? Il faut que vous...
Ah ben, je m'arrête, c'est tout. Je ne le fais pas. Je ne ferai pas de transport d'enfants.
Ouais, je ne le fais pas, je m'arrête. Donc, après votre conversation, il s'engage donc à ne pas transporter d'enfants. Bon, maintenant, si on prend un peu de hauteur, Laetitia, tout ce que vous venez de nous expliquer montre qu'il y a effectivement des failles, mais il y a aussi des légèretés de la part de certains employeurs.
Oui, et pourtant, la réglementation, sur le papier, elle leur impose de garantir la sécurité de leurs passagers. C'est ce que rappelle Karen Noblinski, une avocate spécialiste des violences sexuelles.
Un professionnel qui offre un service, il doit garantir les conditions de sécurité raisonnablement et légitimement prévisibles pour les usagers. Et donc le professionnel doit donc évaluer tous les risques relatifs à son service et prêter une attention toute particulière et aux jeunes mineurs et à certaines femmes en situation de vulnérabilité et à des personnes âgées ou à des personnes vulnérables.
Ouais, sauf qu'apparemment, ça ne marche pas.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que la sénatrice Les Républicains, Marie Mercier, propose d'étendre l'accès aux fichiers qui recensent les auteurs d'agressions sexuelles, notamment au domaine des transports de voyageurs. En janvier dernier, lorsque nous l'avons informée des résultats de notre enquête, elle a d'ailleurs pris une mesure dans ce sens.
J'ai fait adopter un amendement au Sénat qui ouvre la possibilité aux opérateurs de transport public de personnes d'avoir accès à ce fichier, c'est-à-dire le fichier sur lequel sont inscrits les personnes qui ont été condamnées pour une agression sexuelle. Pour le moment, ça ne concerne que les transports publics, mais il est évident qu'il faudra faire en sorte que les ambulanciers, toutes les personnes en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables puissent être contrôlées, qu'on puisse s'assurer qu'elles ne sont pas inscrites à ce fichier avant que l'employeur ne les fasse entrer dans son entreprise.
Alors je précise que ça existe déjà dans les communes. Les maires, lorsqu'ils veulent embaucher une personne qui va être en contact avec des enfants, ont accès via le ministère de la Jeunesse et des Sports au fichier des délinquants sexuels.
Et ce sera votre conclusion, Laetitia Chirel. Alors merci, on rappelle que cette enquête a été réalisée en partenariat avec le site d'investigation Disclose. Et puis je précise qu'on peut la lire ou même réécouter cette émission sur l'appli Radio France. Mais surtout, restez avec nous. Qu'y a-t-il de commun entre le site de Pierre Bénite près de Lyon et la ville de Trenton dans le Michigan? Eh bien, réponse dans quelques instants.
Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would I go back where we started? You had the chance to love me, but but apparently you won't. No, you won't. So even if I could, would it go back where we started? I know you're still waiting, wondering where my heart is. Right, things won't change, but the hardest part is you're realizing maybe I ain't the same. And what you're waiting for.
La superbe voix de la jeune londonienne Olivia Dean, c'était The Hard Part, un titre composé en 2020, mais qui figure désormais sur son tout premier album.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Hugo Coignard, bonjour.
Bonjour.
Pour le site d'investigation en région Médiacité, vous avez enquêté sur Arkema. C'est une usine qui produit du gaz et des polymères sur le site de Pierre-Bénite, dans la région lyonnaise, et qui rejette ce qu'on appelle des polluants éternels, des perfluorés, qu'on appelle encore des PFAS. Alors ces polluants, comme leur nom l'indique, restent très très longtemps dans l'environnement, ils sont persistants, ils peuvent être dangereux, ils sont considérés comme cancérigènes pour la santé. Or, en aval du site, Hugo Coignard, on en trouve en fait un peu partout ces polluants éternels.
Tout à fait. On a investigué avec Médiacité et on s'est rendu compte que ces polluants éternels, on les retrouve partout, à la fois dans les sols. On en retrouve aussi de ces polluants éternels dans l'eau de consommation, l'eau du robinet. Il y a 200 000 habitants dans la région du Rhône, en aval de cette usine, qui boivent une eau qui est contaminée au-delà de la norme européenne en termes de perfluorés, de concentration de PFAS. Et on a encore quelques indications, maintenant quelques informations de la part des autorités qui viennent sur les concentrations de PFAS qui sont rejetées dans l'air. Mais on a encore assez peu d'informations sur le sujet pour l'instant.
L'eau du robinet au-dessus des normes européennes, est-ce que pour autant on peut en déduire les conséquences que ça peut avoir sur la santé ?
Alors, la conséquence qu'on peut en déduire sur la santé, pour l'instant, l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé, elle ne dit pas que cette eau n'est impropre à la consommation, que les habitants ne peuvent pas la boire.
Elle dit juste qu'elle est supérieure aux normes.
Mais elle est supérieure aux normes. Et c'est toute la question que se posent les habitants de ces villages-là, en dessous de cette usine, qui se disent « Mais est-ce que j'ai confiance envers les autorités ?» Parce qu'elles me disent en même temps « Cette eau est non conforme, elle est au-delà de 100 nanogrammes par litre en concentration de PFAS. » Et en même temps, on me dit « Voilà, on va pas vous déconseiller de la boire. » Donc, il y a une certaine défiance vis-à-vis des services de l'État, de ces habitants, qui se disent « Mais est-ce que je peux leur faire confiance pour boire cette eau ?» Et en ce moment, il y a des réflexions qui se mènent avec les collectivités publiques sur la dépollution de cette eau et qui va payer pour pouvoir dépolluer cette eau.
Alors on va en parler, mais déjà le constat, il y a une enquête de France 3 à laquelle vous faites référence qui montrait que dans le sang des riverains et de salariés d'ailleurs, il y a quand même 400 personnes qui travaillent sur le site, on trouvait également des taux anormalement élevés de ces PFAS.
Tout à fait, c'est ce qui a mis en valeur l'enquête de France 3, des taux qui sont assez inquiétants, assez alarmants. Donc il n'y a pas que les riverains, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi les salariés à l'intérieur de l'usine qui ont des concentrations assez élevées.
Et la préfecture déconseille de manger les poissons ou les œufs qui sont situés en aval de l'usine.
Tout à fait. Et récemment, là, cette semaine, elle vient même de déconseiller aussi aux habitants qui habitent aux alentours de l'usine de consommer leurs fruits et légumes dans leur jardin et d'arroser avec l'eau de pluie ou l'eau issue de leur puits, d'arroser leur potager, leur jardin.
Alors, avant d'en savoir plus sur les conséquences que ça pourrait avoir sur la santé de ceux qui vivent autour de cette usine ou à l'intérieur, se pose la question maintenant de comment on fait déjà pour effectivement diminuer ces rejets. Là-dessus, c'est vrai que l'entreprise a quand même diminué ses rejets, puisque vous faites état de 490 kilos d'un composé chimique de la famille des PFAS qui a été identifié en juillet 2022 et on tombe à 64 kilos en juin 2023.
C'est vrai, c'est une décision, un arrêté préfectoral de la préfecture qui a décidé de prendre cette mesure-là et de demander à l'industriel de ne plus produire de PFAS, interdire l'utilisation et la production de PFAS sur le site de Pierre-Bénite à la fin 2024. Et la préfecture a proposé plusieurs paliers pour permettre à l'industriel, sur 2 ans, de diminuer sa production de ce PFAS, qui est le 6,2-FTS, pour être précis. Et pour l'instant, voilà, l'industriel respecte ses paliers et, a priori, d'après ce qu'il a promis et d'après l'arrêté préfectoral qui a été pris, il devrait y avoir une arrêté de l'utilisation de ce PFAS à la fin de l'année.
Bon, dont acte. Maintenant, le PFAS ou les PFAS qui sont, eux, dans l'environnement, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, c'est la question de la dépollution que vous posiez tout à l'heure.
C'est la question que se posent les riverains, c'est la question que se posent les collectivités locales, le syndicat de l'eau, la métropole de Lyon. Est-ce que Arkema va payer la dépollution ? Aujourd'hui, ce que l'on sait, des informations que l'on a, c'est que Arkema n'est pas présent aux discussions, à la table des discussions sur la dépollution de l'eau dans la localité de Ternay, là où on a vu un champ captant qui était contaminé, donc au sud de Lyon. Et donc voilà, on n'a pas encore Arkema qui promet de participer financièrement à la dépollution de cette eau au sud de Lyon.
Sachant qu'on parle de dizaines de millions d'euros là.
Tout à fait, d'autant plus que actuellement sur ce site-là de Ternay, ce village-là, cette eau elle est polluée à des taux extrêmement élevés. Et la solution pour l'instant qui est envisagée, notamment de la part de la métropole de Lyon, c'est de tirer une canalisation depuis un autre champ captant d'eau qui est à 20 km à vol d'oiseau depuis Ternay. Et donc c'est un coût à 30 millions d'euros pour faire venir tout un mécanisme d'eau pour diluer l'eau là où elle est polluée. Lui avec une eau qui n'est pas contaminée. Donc
mais là, pour
c'est
l'instant,
des coûts très élevés.
Pour l'instant, donc c'est la collectivité qui cherche la solution, c'est pas l'usine.
C'est plutôt ça actuellement, le discours de l'usine. On les a interrogés là-dessus pour Mediacité et ils nous répondent qu'ils n'ont pas été invités à une discussion autour de la thématique de l'eau et de sa dépollution. Mmh. Et oui, ça pose, il y a beaucoup d'inquiétudes sur aujourd'hui qui va payer. Est-ce que c'est le contribuable, nous tous ? Est-ce que c'est le consommateur d'eau, c'est-à-dire celui qui tire directement l'eau contaminée ? Ou est-ce que c'est le pollueur et notamment dans ce cas précis-là, Arkema ?
Alors on verra ce qui se passera, mais ce qui est intéressant dans votre enquête, c'est que vous êtes allé voir ce qui se passait sur d'autres sites d'Arkema, notamment aux États-Unis. Vous avez d'abord enquêté dans le Michigan, dans la ville de Trenton. 1,5 million d'habitants boivent là-bas une eau polluée au PFAS, donc on a un peu le même type de situation. Il y a un taux de cancer qui d'ailleurs est assez préoccupant. Et là, pour l'instant, il n'y a rien de dépollué.
C'est ça, c'est ce qui m'a le plus frappé en fait quand j'ai essayé de sortir un petit peu de Lyon pour aller voir outre-Atlantique comment Arkema gère ses autres sites. Et je me suis rendu compte que ce site dans le Michigan, près de Détroit, ça fait depuis 35 ans maintenant qu'il y a des habitants qui attendent sa dépollution. Et j'ai pu visionner sur Facebook une réunion publique avec des habitants, des riverains, avec une députée, avec l'agence de l'environnement. Et ces riverains expliquent, voilà, on est riverains, on habite à côté, on n'a plus confiance dans l'eau qu'on boit. On pense que les polluants sont arrivés dans notre environnement, dans notre aire de jeu, dans nos écoles. Et on a Arkema qui, depuis 35 ans, depuis 89, depuis cette date-là, l'Agence européenne de l'environnement a demandé à Arkema de mener des investigations pour dépolluer un site.
L'agence américaine, vous voulez dire ?
L'agence américaine, c'est ça, pour dépolluer un site qui n'est pas un site pollué au PFAS, mais plutôt au mercure, au pétrole et à d'autres substances chimiques. Et voilà, et donc il y a ce jeu-là, en 2017, entre de ping-pong un peu, entre l'EPA, l'Agence européenne de l'environnement, et le chimiste.
Européenne-américaine, voilà, encore une fois.
L'agence américaine encore, excusez-moi. Et actuellement, il y a cette situation aujourd'hui dans laquelle on arrive, où 35 ans après, il n'y a pas encore de dépollution, et Arkema promet un plan de dépollution de ce site en 2025.
Et vous avez trouvé un autre exemple un peu identique dans le New Jersey.
Tout à fait, dans le New Jersey, en fait, là, c'est une usine maintenant qui appartient au groupe chimiste belge Solvay et qui appartenait à Arkema entre les années 70 et 90. Et donc là, par contre, c'était une usine qui utilisait et a rejeté des PFAS. Et il y a une pollution maintenant au PFAS aussi dans la région, un peu comme à Lyon. et il y a eu un arrangement financier entre l'État du New Jersey et Solvay qui a décidé de donner 400 millions de dollars à peu près pour pouvoir dépolluer le site, pour pouvoir participer à la dépollution de l'eau dans la région. Mais dans tout ça, Arkema, pour l'instant en tout cas, n'a pas payé la dépollution, n'a pas participé à cet effort financier que fait Solvay. Donc voilà, c'est la stratégie finalement que j'ai découvert aux États-Unis d'un industriel qui ne se rend pas trop comptable de ses pollutions et ne finance pas pendant plusieurs années la dépollution alors qu'on le lui demande.
Et quand vous confrontez Arkema à ce que vous venez de nous raconter, qu'est-ce qu'on vous dit ?
On nous dit que ce sont des choses qui sont actuellement prises en compte, que notamment sur Lyon, il y aura plus d'utilisation de PFAS en 2024. Donc, ils expliquent que c'est une situation qui est en train de se résoudre. Après, sur la situation états-unienne, ils n'ont pas répondu précisément sur le calendrier de cette dépollution qui tarde.
Bien, merci Hugo Coignard. Alors je précise que votre enquête, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Arkema, on peut la lire sur le site de Mediacité, un site qui est consultable par abonnement. Et puis je remercie nos confrères de France Bleu Saint-Étienne-Loire qui nous ont permis d'établir la liaison avec vous, puisque vous étiez dans la région lyonnaise. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Dibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Maxime Goudard et Benjamin Wagon. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.